On a tous connu cette scène. Tu sais, le matin, l'herbe est couverte de rosée, on s'approche avec le licol un peu dissimulé dans le dos, le cœur vraiment plein des meilleures intentions du monde. Et là, bam!
Le cheval lève la tête, pivote sur ses postérieurs et s'éloigne au petit trot. Oui, c'est un grand classique.
C'est ça, ouais. Et la sensation qui suit, elle est presque universelle. T'as cette boule au ventre, un sentiment de rejet immédiat. Et la culpabilité qui tombe d'un coup. Genre, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi cet animal veut pas de ma compagnie?
Et c'est tellement humain de réagir comme ça. Mais et si cette fuite n'avait absolument rien à voir avec une quelconque animosité?
Ah bon? C'est pas qu'il nous aime pas.
Pas du tout. C'est souvent lié au fait que l'humain est devenu, à son insu, totalement indéchiffrable. Le cheval ne fuit pas l'humain en soi, il fuit la confusion.
Waouh. Il fuit la confusion. C'est un sacré changement de perspective.
C'est fondamental. Et ça définit toute la philosophie d'une approche saine. Il y a une phrase clé pour ça. C'est comprendre avant de corriger.
Comprendre avant de corriger. J'aime beaucoup.
Voilà. L'instinct humain, ça nous pousse souvent à nous vexer ou à chercher une méthode pour coincer l'animal, tu vois. Mais il faut se rappeler qu'un cheval, c'est une proie.
C'est clair, on l'oublie souvent.
Son système nerveux, il est conçu pour scruter l'environnement et chercher les prédateurs. Et un prédateur, par définition, ça cache ses intentions avant de bondir.
Donc, s'approcher à pas de loup avec le licol dans le dos?
Contradictoire, hésitante ou avec une énergie mal canalisée, le cerveau du cheval s'allume en rouge. Pour lui, quelqu'un d'imprévisible, c'est quelqu'un de dangereux.
Et donc la fuite, c'est juste la réponse la plus logique pour survivre.
Exactement. C'est juste face à un système de communication défaillant, il choisit la sécurité.
D'accord. Donc, pour devenir ce partenaire rassurant, cet espace de sécurité que le cheval a envie d'approcher, il faut maîtriser une notion invisible. On parle de l'espace personnel.
Oui, la fameuse bulle.
C'est ça. Et ça me fait penser à une situation super humaine. Imaginons, t'es dans une file d'attente à la boulangerie.
Ouais, je vois très bien.
Si la personne derrière toi se tient juste un tout petit peu trop près, sans même te toucher, il y a un malaise qui s'installe. Les poils de la nuque se hérissent, le cœur s'accélère un peu, on ressent tous cette bulle comme un champ de force.
Eh bien, cette bulle, elle existe bel et bien. Et chez le cheval, cette perception spatiale, elle est amplifiée par 1000. Son premier langage, avant même le moindre son, ça passe par l'occupation de cet espace.
Donc, il faut qu'on gère notre propre espace pour lui parler.
Voilà. Le problème, c'est que nous, en tant que prédateurs, on a les yeux placés devant. On a tendance à verrouiller notre regard sur notre cible.
On fixe le cheval.
Exactement. Et quand tu t'approches d'un cheval en fixant intensément ses yeux, en langage équin, c'est une invasion immédiate de sa bulle intime. C'est perçu comme agressif.
Ah ouais, carrément. Donc, que faire? Il faut regarder ailleurs.
L'alternative, c'est d'apprendre à projeter mentalement cette frontière devant soi. Ton regard ne doit pas se planter dans les yeux du cheval, mais plutôt viser un point au sol.
Un point au sol?
Ouais, à la limite exacte de la bulle que tu veux maintenir. Ça indique ton intention spatiale sans l'agresser.
Ça demande une présence physique incroyable, ça. Et ça nous amène à la notion d'ancrage, non? Parce qu'on ne peut pas définir une frontière claire si on est soi-même en train de trépigner ou en déséquilibre.
C'est tout à fait ça. Et c'est là qu'intervient le contraste entre l'action et le repos. Ce fameux bouton on-off de l'énergie corporelle.
J'adore cette image de bouton on-off. Mais la neurologie derrière ça m'intrigue. Pourquoi un simple changement de posture, ça a un tel impact sur un animal qui fait 500 kilos?
Parce que son système nerveux agit comme un miroir ultra-sensible. La lisibilité de l'humain, elle réside dans sa capacité à passer d'une tension ciblée à une détente absolue.
Le bouton on, c'est quoi exactement?
Le bouton on, c'est la position d'orientation. Le poids de ton corps bascule légèrement en avant, t'es prêt à la pousser, ton tonus musculaire augmente. L'intention est dirigée.
Et pour le coup, le secret, ce serait plutôt le bouton off, c'est ça?
Le grand secret de la clarté, c'est le bouton off. Ça exige de faire chuter drastiquement ton tonus. Tu ramènes ton centre de gravité, tu relâches les épaules et surtout, tu expires profondément.
On souffle un bon coup.
Voilà. Cette expiration, elle fait chuter ton propre taux de cortisol. Le cheval perçoit cette baisse de tension instantanément, juste en regardant ta cage thoracique.
Et ça le calme lui aussi.
Exactement. Son système parasympathique s'active en écho. Il comprend que l'environnement est clair et qu'il n'y a pas d'urgence.
Attends, je dois intervenir ici. C'est magnifique en théorie, cette posture zen. Mais dans la vraie vie, si le cheval ignore notre bel ancrage et décide de venir nous marcher sur les pieds, il faut bien réagir.
Bien sûr qu'il faut réagir.
Et là, dès qu'on commence à parler de mettre de la pression ou d'utiliser la longe pour faire reculer l'animal, on flirte dangereusement avec la domination pure, non ?
Je comprends pourquoi tu dis ça.
Bah oui. Comment on réconcilie l'idée d'une approche bienveillante basée sur le consentement avec l'utilisation de la pression ? C'est pas un peu contradictoire ?
C'est vraiment le cœur du débat. Et tout dépend de comment on définit ce mot. Dans un vrai dialogue, la pression, c'est jamais une attaque punitive ou une contrainte physique.
C'est quoi alors ?
C'est une élévation de l'énergie, une suggestion incisive. Le but, c'est d'utiliser l'inconfort le plus léger possible pour dépasser le seuil d'inaction du cheval, pour qu'il prenne de lui-même la décision de bouger.
Donc, on ne le pousse pas avec les mains ?
Surtout pas. On crée un environnement inconfortable à un endroit précis, dans l'espace, pour que le cheval choisisse le confort en s'en retirant. Il reste acteur de son mouvement.
D'accord, c'est une discussion, pas un ordre militaire, quoi. Mais concrètement, comment on orchestre cette pression légère ? Il y a une mécanique très spécifique en deux phases avec la longe ?
Oui, la phase dans l'air et la phase au sol.
Et il y a un détail biomécanique qui m'interpelle dans la première phase, l'action dans l'air. On dit qu'il faut mouliner la longe devant soi, mais en gardant impérativement le coude coulé aux côtes. Pourquoi ? Un grand mouvement de bras, ce serait pas plus visible ?
Plus visible, ouais, mais beaucoup trop confus. Si ton coude se décolle, ton épaule s'ouvre et le mouvement de la longe va inévitablement déborder sur les côtés.
Et le cheval y voit ça comment ?
Ben, de son point de vue, l'énergie balaye son espace latéral. Sa réaction la plus logique, ce sera de faire un pas de côté pour fuir ce mouvement.
Ah, et nous, on veut qu'il recule droit !
Exact. En gardant le coude verrouillé contre tes côtes, l'action de ton poignet projette l'énergie strictement vers l'avant, comme un tunnel direct entre toi et lui.
Donc on bloque juste la porte d'entrée de notre bulle.
C'est ça, sans parasiter les zones d'échappatoire sur les côtés.
La précision est redoutable quand même. Et si ça suffit pas cette énergie dans l'air, on passe à la phase 2, l'action au sol.
Voilà, on fouette la terre dans cette fameuse zone interdite.
Mais sans jamais toucher l'animal, bien sûr. Et c'est là qu'intervient une règle d'or, qui ressemble presque à un mantra. L'intention n'est pas sur le cheval, l'attention est dans l'espace.
L'intention n'est pas sur le cheval, l'attention est dans l'espace. Oui, c'est un pivot psychologique majeur.
Pourquoi c'est si important de ne pas le viser lui ?
Parce que si ton regard ou ton mouvement cible son corps, son cerveau de proie l'interprète comme une attaque directe. C'est de l'intimidation pure. Ça déclenche la fuite ou la lutte.
Alors que si on vise l'espace vide ?
Si tu te focalises sur l'espace entre vous, tu revendiques juste un territoire. Le message devient « cet endroit précis devant moi est très agité et bruyant ».
Il comprend qu'il n'est pas la cible, en fait.
Voilà, il constate juste que cet espace n'est pas accueillant et il recule.
Et c'est là que la vraie magie opère, je trouve. Le paradoxe de cet apprentissage, c'est que la leçon, elle n'est pas dans la pression de la longe. Elle est dans la milliseconde exacte où cette pression disparaît.
Absolument. Dès que le cheval amorce un transfert de poids vers l'arrière ou propose de s'arrêter en dehors de la zone.
On est un tout.
On est un tout. Le bras s'arrête, le tenus s'effondre, l'expiration se fait entendre. C'est le retrait d'inconfort.
C'est ce soulagement fulgurant qui lui fait comprendre.
Exactement. Il n'apprend pas parce que la longe tourne, il apprend parce que tu as arrêté au bon moment. Si tu rates ce timing, si tu continues de mouliner alors qu'il a fait un pas en arrière, tu détruis la communication.
Ah oui, il doit se dire « j'ai donné la bonne réponse, mais ça continue ».
C'est ça. Il se dit que ses actions n'ont aucun impact. Et là, c'est la porte ouverte à la détresse acquise.
Cette mécanique a été brisée plusieurs fois. Il y a des erreurs classiques qui brouillent tout.
Beaucoup trop d'erreurs, malheureusement.
L'une des plus courantes, ça me fait penser à une double contrainte. C'est comme demander à quelqu'un de reculer pour laisser passer, mais en même temps, tu l'agrippes par la veste.
C'est absurde et stressant.
Complètement angoissant. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on fait quand on tient une longe trop courte.
Le cerveau du cheval court-circuite complètement. Le corps de l'humain hurle « éloigne-toi », mais la tension mécanique du licol bloque la nuque et dit « reste ici ».
C'est intenable pour lui.
Il faut impérativement du mou dans la longe. Sinon, il ne peut pas exprimer le mouvement. Une autre erreur physique massive, c'est le mouvement involontaire de l'humain.
C'est-à-dire ?
L'humain qui bouge ses pieds.
Oui.
On a dit que l'humain devait être un point fixe. Or, très souvent par mimétisme, quand la personne demande de reculer, elle fait elle-même un pas en arrière.
Ah oui.
L'humain recule, donc il crée un vide devant lui. Il aspire littéralement le cheval vers l'avant, tout en lui demandant de reculer.
Précisément. Le message est tellement brouillé que le cheval ne sait plus s'il doit avancer pour combler l'espace ou reculer pour fuir.
C'est le chaos total dans sa tête.
Et il faut aussi parler de la pression constante. Maintenir une tension sur le licol sans jamais céder.
À ce jeu-là, avec un animal d'une demi-tonne, on perd toujours.
évidemment. Le cheval va juste gainer son encolure, s'appuyer sur la force et s'éteindre.
Toutes ces erreurs techniques créent de la confusion, mais ce qui empoisonne vraiment la relation, c'est l'aspect émotionnel. Quand on s'emmêle les pinceaux, la frustration monte.
Et c'est la toxicité absolue.
Ben oui, les gestes deviennent secs, on bloque sa respiration, on s'agace.
Laisser la colère ou l'impatience s'infiltrer, ça transforme une demande claire en agression. Et la neurologie des mammifères est formelle. Un pic de stress ferme les portes de la cognition.
Le cerveau reptilien prend les commandes.
Exactement. Si un cheval montre des signes de panique, c'est un signal d'alarme. L'objectif n'est jamais de faire peur. La peur crée un stress chronique.
Le boucle est bouclé, en fait.
Voilà exactement pourquoi le cheval du début choisit de s'enfuir. Il n'agit pas par vengeance. Il anticipe le chaos. C'est tout à fait ça. Il voit l'humain. Son cerveau fait les calculs. Cette créature est illisible. Elle s'agace sans raison. Je suis pas en sécurité.
Et la distance devient son seul bouclier.
Le cheval choisit la fuite parce qu'il préfère le confort de l'isolement à l'angoisse de l'incohérence.
Mais alors, comment on mesure le succès? Comment faire la différence entre un cheval qui recule parce qu'il est juste intimidé et un cheval qui comprend sereinement les limites?
L'observation des micro-expressions est primordiale. Un super marqueur, c'est quand il s'approche de lui-même et s'arrête net, à la limite de ton espace, sans que tu fasses le moindre geste.
Il a intégré la frontière, quoi.
Oui, il la respecte avec aisance. Et s'il doit reculer, ça se fait avec fluidité, sans que l'encolure se fiche vers le mot. Mais la vraie signature, c'est ce qui se passe juste après le relâchement.
La bascule vers la détente. Le système parasympathique.
Le corps du cheval ne ment jamais. Une fois hors de pression, il cherche à dissiper la tension. Tu vas voir la ligne du dos s'abaisser, le regard s'adoucir, les oreilles se poser.
Et la mâchoire, non. Hein ? On parle souvent de ça.
Surtout la mâchoire. Il va se mettre à mâchonner, à lécher ses babines ou à bâiller. C'est la preuve neurologique directe qu'il métabolise l'information dans le calme. Il a compris.
Ce qui est fascinant, c'est que toute cette grammaire invisible développée au sol, elle s'évapore pas quand on monte en selle.
Ah non, surtout pas. Le corps à corps reste le même.
Mais comment cette gestion du tonus et de la respiration, ça se traduit sur le dos de l'anidal?
C'est hyper logique, tu vas voir. Au sol, le cheval lit ta cage thoracique. En selle, cette même respiration se transmet à ton bassin, et donc directement à son dos.
Donc si je bloque ma respiration, t'as stress?
Ton bassin se contracte instantanément. Le cheval sent cette rigidité, ce fameux bouton « on » resté coincé, et il l'assimile à un danger imminent.
Et il se fige à son tour.
Voilà. Apprendre à gérer son énergie au sol, apprendre à expirer, c'est construire les fondations de l'assiette du cavalier. Il cherchera la même détente sous la selle.
C'est un véritable sanctuaire d'habitudes claires qu'il faut construire. Pour résumer un peu cette discussion, définir son espace personnel, c'est pas du tout dominer le cheval.
Non, c'est refuser le rôle du prédateur erratique.
C'est ça. C'est devenir un partenaire prévisible, ancré, capable d'offrir du confort par un simple souffle. C'est ça qui lui permet de baisser la garde.
Et d'ailleurs, cette idée de repère prévisible, ça soulève une réflexion beaucoup plus vaste sur notre rapport à l'animal et peut-être même à nous-mêmes.
Comment ça?
Si on admet que le cheval réagit d'abord à notre énergie non verbale, à l'authenticité de nos émotions, que se passerait-il si, avant même d'ouvrir la barrière du pré, on prenait 10 secondes pour faire un vrai scanner de notre état intérieur?
Évaluer la tension dans nos propres épaules, notre souffle un peu court?
Exactement. Au fond, si ce cheval pivote et s'éloigne dans l'herbe humide, est-ce qu'il ne nous tend pas simplement un miroir d'une honnêteté brutale?
Un reflet de notre propre tempête silencieuse, en somme.
C'est ça. Le comportement du cheval n'est-il finalement que le miroir de notre propre météo intérieure au moment précis de la rencontre?
Waouh! C'est une pensée fascinante sur laquelle s'arrêter. C'est à nous de faire le premier pas vers la clarté. Merci pour cette exploration.
Avec grand plaisir. Merci à toi.